France Culture.
Bonjour le Book Club, bonjour Vanessa Springora. Bon, je suis ravie de revenir dire quelques mots dans cette émission, surtout pour votre roman, Vanessa, que j'ai lu d'une traite pendant mes vacances. Je repense encore souvent à Patronyme. J'ai eu vraiment l'impression de vivre cette quête d'identité et cette quête de compréhension et de connaissance à vos côtés.
France Culture, le Book Club, Marie Richeux.
Un nom de famille aujourd'hui au programme de votre book club et tout ce qu'il y a dedans, l'os déterré que ronge jusqu'à la moelle, jusqu'au cœur de l'histoire, Vanessa Springora. En 2020, la mort de son père coïncide à quelques jours près avec la sortie de son précédent livre, Le Consentement, qui la propulsait sur le devant de la scène littéraire et médiatique. En exhumant l'appartement que celui-ci avait rempli d'objets et de documents, elle dénoue un peu de l'énigme qu'il représentait pour elle et remonte la piste du grand-père. Vanessa Springora publie Patronyme aux éditions Grasset. Elle est notre invitée. Vers 15h50, lecture d'actu. Comme chaque lundi ces temps-ci, c'est l'autrice et performeuse Diaty Diallo qui lit pour nous un texte en écho avec les temps présents. Aujourd'hui, ce sont les mots « cessez le feu » à la une des journaux d'actualité qui nous ont donné envie de relire « Piste », un texte de Pendia Diouf. Et en fin d'émission, nous cherchons de la musique dans les livres et il y en a, dans celui de Vanessa Springora. Ce sera pour le grand jeu des pages musicales. On est ensemble pour une heure. Bienvenue à toutes et à tous dans le Book Club. Bonjour Vanessa Springora.
Bonjour.
Votre livre s'appelle « Patronyme ». Il est paru en cette rentrée littéraire de janvier 2025 aux éditions Grasset. Soyez la bienvenue dans le Book Club. On est ravis de vous recevoir. L'émission commence toujours par un portrait en tant que lectrice. Il est question de vous en tant que lectrice, vous, dans cet appartement que vous exhumez, vous croisez des livres auxquels vous n'aviez pas accès pendant tout un temps. Ça raconte une partie de vous en tant que lectrice enfant, mais on va remonter encore plus loin. Est-ce que vous vous souvenez où et quand vous avez appris à lire ?
Ah, j'ai appris à l'école, comme tout le monde. J'ai un souvenir très ému, oui, de ça. Coïncide avec le moment où mes parents se sont séparés, donc j'ai changé de quartier, changé d'école, je suis arrivée voilà, dans un nouvel environnement et j'ai tout de suite été très bien accueillie dans cette classe de cours préparatoire où je me suis jetée dans la découverte du langage avec un bonheur extraordinaire et tout de suite d'ailleurs l'institutrice que nous avions en même temps qu'elle nous apprenait à lire et à écrire nous apprenait des comptines, de la poésie et donc on a appris à écrire en même temps qu'on apprenait à lire et j'ai trouvé ça formidable comme expérience, je m'en souviens très très bien oui.
Aujourd'hui, à vous lire, on y reviendra. Le séquençage de votre récit, de votre narration est tellement ponctué de citations littéraires que, en effet, c'est presque tenu dans un même geste, celui d'être lectrice et celui d'être autrice, Vanessa Springora. Est-ce que ça l'a tout de suite été ? Est-ce que vous avez tout de suite autant aimé écrire que lire enfant ?
Oui, c'est vrai que j'ai tout de suite écrit, surtout des poésies et puis des petits textes de fiction, mais vraiment très tôt, hein, déjà entre 9 et 11 ans. J'avais ça en moi, mais j'ai eu la chance aussi de grandir dans un milieu où il y avait beaucoup de livres, dans un appartement où il y avait une bibliothèque qui croulait, donc j'avais qu'à tendre les bras pour lire.
Vous l'avez fait ?
Je l'ai fait. D'ailleurs, j'ai lu trop jeune des livres, parce que je naviguais dans cette bibliothèque de façon un peu erratique, sans boussole. Et donc, je me souviens, par exemple, d'avoir lu vers 11 ans les mémoires du général de Gaulle, ce qui est quand même assez
voilà,
étrange.
Voilà, pourquoi pas.
mais bon, tout ce qui me tombait sous la main, mais aussi Histoire d'eau, par exemple, à un âge où peut-être je n'aurais pas dû le lire. C'est-à-dire avant 11 ans, avant la puberté. Bon, c'était un peu étrange. Je comprenais pas tout, mais ça m'a fascinée aussi. Et sans doute, ça a fait de moi la personne que je suis. C'est lecture accidentelle, un peu intempestive. Bon, mais il y avait beaucoup de livres chez moi. Ma mère valorisait beaucoup la lecture. J'étais dans un milieu qui valorisait la lecture. Et donc, ça aide énormément, évidemment. C'est une grande chance. Et puis, j'en ai fait mon métier, puisque je suis devenue éditrice. Et être éditeur, en premier lieu, c'est être un grand lecteur. Mmh. C'est-à-dire que déjà, vous lisez la vingtaine de livres qui vont être publiés annuellement dans une maison d'édition, plus tous les manuscrits que vous recevez par ailleurs et qui seront peut-être pas tous publiés. Mais ça fait déjà un certain nombre de textes, plus vous êtes obligé de vous tenir au courant de l'actualité littéraire, donc toute la littérature contemporaine. Et puis, de temps en temps, vous essayez de trouver un moment pour relire ou lire des classiques, parce qu'on n'a jamais fini de lire des chefs-d'œuvre de la littérature. Alors maintenant, moi, j'ai pris un peu plus de distance vis-à-vis de l'édition. Je travaille de façon indépendante chez moi et je redécouvre justement le plaisir d'avoir moins d'injonctions à lire l'actualité littéraire. Et je lis un peu plus en décalé et j'essaye de m'octroyer du temps aussi pour continuer à lire des classiques et pas uniquement la littérature contemporaine, que j'adore évidemment, hein, mais c'est un grand bonheur pour moi, même si ça a été un grand bonheur aussi toutes ces années, hein, parce que les années d'éditrice, c'était évidemment lire ces textes aux côtés des auteurs que j'accompagnais dans le travail de suivi éditorial, mais c'était aussi relire, et ça c'est une expérience assez intéressante, parce qu'en général on a tendance à relire quand on
avec
relit
les auteurs et autrices,
oui,
au travail.
Oui, parce que quand on relit souvent les textes, c'est à distance. Par exemple, moi, il m'arrive de relire un texte que j'ai lu il y a 10 ans, 20 ans, par curiosité, pour voir ce que j'en pense aujourd'hui. Mais quand on est éditeur, on va relire 3-4 fois le même texte à différentes étapes d'aboutissement. Et là, on rentre vraiment dans la matière littéraire même d'un texte. Et c'est assez fascinant parce que ça prend une épaisseur complètement différente. Oui, c'est vraiment de la matière au sens physique du terme. Et on va voir comment un texte bouge, évolue en fonction du travail que l'auteur effectue dessus au fur et à mesure des remarques qu'on peut éventuellement lui faire. Et ça, c'est aussi un rapport encore différent, la lecture dans un texte qui est encore vivant et mouvant, qui n'est pas figé par la publication, quoi.
Travail que vous aimez faire pour vous, ce travail de reprise, de relecture, de travail sur la matière,
oui,
pour
oui.
vos textes, j'entends.
Oui, oui, moi je relis et je réécris beaucoup, sans arrêt jusqu'au dernier moment, y compris sur les épreuves, ce qui ne doit pas être très agréable pour les correcteurs, et je le sais pour avoir été donc de l'autre côté du miroir. Mais oui, je réécris sans cesse, oui.
Votre livre Le Consentement commençait par l'évocation des contes de Grimm qui avaient été dans vos mains, usés jusqu'à la corde. Oui. Voilà, vous connaissez bien votre texte. Oui. Qu'est-ce que vous avez gardé de cette lecture-là en particulier, puisque vous le mentionnez dès le départ?
Ce que j'ai gardé, c'est en même temps la trace de quelque chose qui m'a profondément structuré, qui a structuré mon imaginaire, qui a fondé tout un tas de valeurs, de croyances, de rapports, notamment à l'amour, mais aussi à la notion d'héroïsme, de valeur, de transgression aussi, d'interdit. C'est cette trace-là que j'ai reçue sans la contester à l'époque, parce que quand on est enfant, en fait, voilà, on reçoit et on est formé par ça, intellectuellement et affectivement aussi. Et puis aujourd'hui, ce sont des choses que j'ai tendance à remettre en question, évidemment, comme on l'a fait beaucoup, notamment pendant toute la vague MeToo qui continue, de remettre en question un certain nombre de
constructions des imaginaires.
Voilà, de schémas patriarcaux, y compris sur la question du consentement, qui sont posés de façon très problématique et transmis sans qu'on les remette en question comme ça, notamment aux petites filles, mais aussi aux petits garçons qui s'identifient forcément à ces personnages qui sont des archétypes de notre culture occidentale et qu'il faut vraiment aujourd'hui. Enfin, heureusement, d'ailleurs, je m'aperçois que dans les bibliothèques, dans les librairies jeunesse. Beaucoup de gens maintenant font ce travail d'essayer de proposer d'autres types de contes, de récits plus contemporains et donc revus à l'aune des valeurs qui sont les nôtres aujourd'hui et qui sont peut-être un peu plus égalitaires, voilà, entre les deux genres déjà, et puis qui proposent aussi d'ailleurs d'autres schémas simplement que la norme hétéro-patriarcale. Donc voilà, c'est ce qui me reste, c'est ça, c'est la magie qui a été à l'époque tout cet univers, et aujourd'hui le sentiment d'avoir été quand même modelé d'une certaine manière sans avoir eu mon mot à dire dans cette histoire. Mais c'est pour ça qu'on écrit aujourd'hui, pour contester ces récits originels.
Est-ce que vous avez souvenir, Vanessa Springora, de la lecture d'un roman, d'un essai, un petit peu plus tard dans votre parcours, qui aurait été un tournant dans votre vie de lectrice?
Alors, ça a été un tournant, mais...
Ou une étape.
Très, très précoce. Je vais citer pas seulement un livre, mais plusieurs, mais ça commence par un, parce que ça a été mon premier choc de lectrice, très très tôt, je devais avoir quelque chose comme 11 ans, c'était le Horla de Maupassant. Et ensuite, j'ai eu une espèce de passion qui a duré très très longtemps pour tous les livres d'auteurs qui nous amenaient dans une sorte de, enfin, d'exploration de la psyché humaine et jusqu'aux confins de la folie. Ça allait de des mémoires d'un souterrain de Dostoïevski, au journal d'un fou de Gogol. Je pense à des textes comme « Sombre printemps » d'Unique Azurne, le journal de Nijinsky. Mais j'ai eu une passion pendant des années où je ne lisais que ça. Vraiment, ça m'interroge encore aujourd'hui. Je me demande pourquoi cette passion-là. C'est vrai que mon écriture aujourd'hui est quand même très influencée par la psychanalyse, et je crois qu'en fait c'est quelque chose qui m'a très tôt passionnée, le fait que la littérature soit une autre façon d'explorer la psychologie, la psyché. Je préfère d'ailleurs l'expression psyché que psychologie, parce que psychologie ça rabaisse à des schémas un petit peu réducteurs, mais où tout fait. Mais voilà, tout ça m'intéresse beaucoup, les textes d'Artaud par exemple aussi, enfin ces textes qui sont des témoins d'un moment où des auteurs se voient eux-mêmes basculer dans la folie et essayent de se raccrocher au réel ou pas d'ailleurs, ou de nous montrer en fait en miroir les barrières qu'ils sont en train de franchir eux-mêmes en quittant le réel. Ça m'intéresse beaucoup et ça a été vraiment un tournant. Alors, mes deux livres en sont pas tout à fait le reflet, sauf que quand même, dans le consentement, il y a un chapitre qui a été très important pour moi, parce qu'en réalité, c'est le premier que j'ai écrit chronologiquement, mais finalement, je l'ai placé à la fin du livre, dans la composition finale. Finalement, je l'ai écarté et mis à la fin, parce que chronologiquement, c'est comme ça que c'était passé. Mais dans la chronologie de l'écriture, c'est le premier chapitre que j'avais écrit et qui était ce moment de basculement dans la folie où j'ai fait, à l'âge de 19 ans, une bouffée délirante et où j'ai complètement quitté la réalité pendant quelques jours et je me suis retrouvée hospitalisée d'office à Sainte-Anne. Et j'ai trouvé que c'était, moi-même, j'ai eu beaucoup de plaisir à écrire ce moment-là parce que je trouvais que c'était éminemment littéraire. Je ne saurais pas vous dire pourquoi, mais ça m'intéresse toujours beaucoup.
D'ailleurs, on croise à la fois Freud et à la fois Lacan dans Patronyme, dont on sent qu'il y a quelque chose, sans devenir un texte théorique, mais qui procède de ce que pourrait être la pratique psychanalytique ou le rapport à l'association d'idées, ou même juste ce qu'on appelle très rapidement et trop rapidement l'exploration de soi ou de son histoire, Vanessa Springora.
Oui, alors c'est vrai que Patronyme, comme l'était Le consentement d'ailleurs, sont des textes qui sont très introspectifs, où il y a un aller-retour entre des anecdotes du passé, des souvenirs, des choses qui remontent, et puis une analyse a posteriori, on va dire. Mmh. Effectivement, c'est très proche du travail qu'on peut faire en analyse, mais j'essaye de dissocier quand même les deux. Je pense que ça n'a pas tout à fait les mêmes conséquences. Quand on est dans un parcours, une cure analytique, on est dans un travail de soi à soi, où on est censé soi-même écouter ce qu'on dit ou écouter ce que dit son inconscient pour essayer de modifier un peu des schémas qui nous entravent dans la vie, de répétition notamment. Mais alors que quand on écrit pas que pour entendre soi-même ce qu'on dit, on livre aussi un récit aux autres, on est dans une autre démarche quand même plus altruiste, je suppose, de partage en tout cas.
Il y a une adresse en tout cas.
Voilà, il y a une adresse et mais il y a une inspiration, disons que je pense que mes textes s'inspirent effectivement de l'introspection, de l'exploration de l'inconscient, oui aussi.
Si vous deviez dire très rapidement quelle est la place de la lecture dans votre vie aujourd'hui, est-ce que vous cherchez dans les livres, si vous cherchez quelque chose ?
Je cherche tout un tas de choses différentes. Je cherche parfois des confirmations. Je cherche au contraire à d'autres moments à être complètement déplacée et à apprendre des choses nouvelles, comme dirait Bertrand Belin. J'aime beaucoup effectivement lire la littérature contemporaine et des nouvelles voix de très jeunes auteurs, autrices qui inventent une langue aussi différente, très contemporaine, ça veut pas dire grand chose, peut-être moderne, enfin moderne à mes yeux, c'est-à-dire qui rompt avec la syntaxe habituelle, qui rompt avec le vocabulaire habituel qu'on a, enfin voilà, j'aime aussi être un peu dérangée, moi qui ai une écriture assez classique, et j'aime bien aussi voilà, qu'on être transformé aussi par les livres. Il y a vraiment des livres qui vous transforment complètement, où on peut dire qu'il y a eu un avant et un après. Donc, je cite certains auteurs dans mon livre, un certain nombre d'auteurs, mais il y en a d'autres que je ne cite pas, mais qui ont été très importants. J'ai beaucoup parlé de Maggie Nelson comme étant effectivement quelqu'un qui m'avait énormément libérée dans l'écriture, qui était un modèle, et je pense que, évidemment, je ne suis pas la seule à le dire, c'est même devenu un peu impensif aujourd'hui, mais c'est vrai que cette liberté de pouvoir écrire un texte qui soit ni de la fiction, ni de l'essai, ni du commentaire,
poème,
ni un poème,
mais tout en gardant de la poésie.
Qui est toute cette pluralité, cette diversité en soi, et qui l'assume complètement, moi, non seulement ça me libère, mais ça me passionne, et puis je pense que ça montre que la littérature se transforme en permanence, et qu'on est dans ce moment de littérature du réel qui explore des nouvelles formes, et ça m'intéresse beaucoup, oui.
On va parler de votre livre à vous, Vanessa Springora, juste après cette chanson de Compromat. C'est un groupe français au nom allemand, donc composé par la musicienne Rebecca Warrior et le musicien Gitalik. La chanson s'appelle Niemand, personne. Elle est sortie en 2019 sur leur disque qui s'appelait Traum und Existence. Vous en citez quelques paroles en exergue de votre dernier chapitre. Ich bin Einstein, unter Einstein, unter Einstein. Je suis une pierre, sous une pierre, sous une pierre.
Marie Richeux.
Les noms de famille ne nous sont pas propres. Au contraire, ils circulent, se transforment, se transmettent, s'inventent parfois. Et puis les noms de famille sont rarement propres, rarement sans tache, rarement sans secret. Patronyme, c'est le titre de votre roman, Vanessa Springora, et ce mot tout seul semble suffire à lancer l'enquête. Tout comme le mot consentement que vous aviez choisi comme titre pour votre précédent livre, il contient déjà 1000 questions, 1000 strates, 1000 histoires. Archives, voyages, entretiens vous font dérouler la pelote du nom Springora qui n'est pas tout à fait le nom de votre grand-père pour cause. Il a passé la moitié de sa vie à essayer de l'effacer, comme si changer ce nom pouvait effacer sa participation au crime nazi que vous découvrez. découvrait vite. Des hommes qui essayent d'effacer une partie d'eux-mêmes et une femme qui essaye de faire tenir tous les morceaux de son identité. C'est le mouvement de votre livre paru en cette rentrée littéraire aux éditions Grasset. On en parle avec vous, Vanessa Springora, juste après la lecture par Mathilde Wagman du prologue.
Il m'est plus facile de te le dire maintenant que tu es mort. Tu as toujours été pour moi un personnage intrigant. Toute ta vie, tu as tenté d'être quelqu'un, tu t'es inventé de multiples personnalités, une aura et une légende aussi fictive que l'était l'histoire de notre nom de famille. Tu es mort seul sur ton vieux canapé élimé et tu ne m'as laissé qu'un mystère, ce champ de ruines qu'a été ta vie. Mais je suis comme les chiens, j'aime déterrer les vieux os. L'envie irrépressible de comprendre ce qui t'avait mené là est née après la découverte de ton cadavre. Tout a commencé au moment où s'achevait un cycle, une vie, la tienne, alors que la mienne prenait un tour inattendu. Je venais d'écrire un livre dont tu étais indirectement le sujet, et en dépit de ma timidité naturelle, de mes tentatives inconscientes pour saborder ma vie professionnelle, comme tu l'avais fait avant moi, je m'étais fait un nom, de façon bien involontaire. Ce nom, c'était le tien, bien sûr, un nom dont je ne savais à peu près rien, sinon les fables successives que tu as pu m'en dire au fil d'une relation sporadique.
C'est le prologue de votre livre, Vanessa Springora, patronyme, qui emprunte l'adresse, le tu, qui est une forme qu'on retrouvera à la fin de votre livre, un tu qui s'adresse à votre père. Donc tout commence par une concordance de temps, concordance de date, en même temps que vous vous rendez en taxi vers une grande émission de télévision dédiée à la littérature, la Grande Librairie, vous apprenez le décès de votre papa. Qu'est-ce qui se passe et qu'est-ce qui déclenche l'écriture, Vanessa Springora, et dans quelle temporalité? Parce que quand on ouvre le livre, il y a ce maintenant, il y a ce dès maintenant, on a l'impression que tout s'écrit en même temps que nous le lisons, mais pour vous, ça s'est passé comment?
Ça s'est passé avec un effet à retardement, en fait, puisque, bien évidemment, au moment où le consentement sortait, à la fois parce que, enfin, il y avait la concordance de la promotion du livre, l'enquête judiciaire qui s'est ouverte quasiment au même moment que la sortie du livre, donc le décès de mon père avec l'obligation de vider cet appartement, ce qui me prenait aussi beaucoup de temps, et puis ensuite la longue vie du consentement qui a duré, notamment en raison du fait que le livre a été traduit dans beaucoup de pays. C'est en fait un livre qui m'a occupé pendant 3 ans, et ça aurait été absolument impossible pour moi de commencer à écrire autre chose. J'étais complètement dedans, happé pendant très longtemps. Et puis en même temps, il y a eu le confinement aussi. Pour moi, souvent, je fais le lapsus entre confinement et consentement parce que les deux ont été concomitants. C'est-à-dire le livre est sorti en janvier et en mars, on était confinés 2 mois plus tard. Donc tout ça a fait que ça aurait été absolument impossible de me mettre à écrire autre chose pendant cette période. Et puis j'avais des activités à ce moment-là encore d'éditrice. Enfin, j'étais d'éditrice avec des responsabilités importantes puisque je dirigeais une maison d'édition. Voilà. Donc c'est vraiment 2 ans plus tard quand j'ai été à la fois invitée dans ce festival littéraire à Prague, donc en Tchécoslovaquie, le pays de naissance de mon grand-père, et aussi au moment en fait où la guerre en Ukraine a commencé, qu'il y a quelque chose qui a commencé à me titiller, alors que j'étais déjà partie sur un autre projet littéraire qui était plutôt un projet de roman historique. D'ailleurs, là aussi, on pourrait parler de roman historique, mais sous une autre forme, en tout cas plus traditionnelle, qui était aussi un peu d'exofiction, puisque c'était, je m'intéressais à une femme qui avait été brûlée sur le bûcher sous l'Inquisition après avoir exercé illégalement la médecine. Donc j'étais partie sur un sujet complètement différent. Et puis cette invitation en fait en Tchéquie était un peu comme un signe du destin. C'est-à-dire que ça me donnait l'occasion de retourner dans ce pays dans lequel j'étais déjà allée une fois 10 ans auparavant, mais où j'avais fait que du tourisme. J'étais partie comme ça, sans sans même penser à me pencher sur mes racines, ce qui est quand même le signe que moi-même j'avais vraiment intégré le tabou. Et là, d'avoir à la fois découvert au préalable tous ces documents chez mon père, qui concernaient mon grand-père donc, et son passé trouble, et cette invitation, c'était pas possible de pas y lire un signe du destin et une invitation à pousser les choses un peu plus loin. Et il se trouve que quand je suis partie, je savais pas encore que j'allais écrire, mais c'est ma façon de faire naturellement, d'avoir un carnet à côté de moi, toujours un stylo, et d'écrire ce qui se passe dans ma vie. Je parle pas vraiment de journal, mais c'était quelque chose de cet ordre-là. Et donc, j'ai pris un certain nombre de notes déjà pendant ce voyage. Et puis, j'ai continué mon enquête. Et au fur et à mesure, l'enquête s'est tressée, tissée de fragments d'écriture qui, assez vite, sont devenus un projet de livre. Enfin, la question s'est pas tellement posée. Mais j'ai dévié de ma route à cause de cette invitation. Donc, moi, je pense qu'il y a eu une intervention extérieure.
Cette enquête, elle porte sur Joseph, la figure de ce grand-père dont vous retrouvez une photographie et quelques documents dans l'appartement de votre papa. Votre livre s'ouvre non seulement par cette adresse directe à votre papa, Vanessa Springora, mais d'abord aussi par des chapitres consacrés à ce père. C'est-à-dire que c'est pas seulement écrire sur le cadavre et l'appartement que vous devez vider, mais aussi sur la vie de cet homme et sur l'énigme qu'il représentait, sur son rapport à l'homosexualité, sur le rapport qu'il entretient avec sa propre maman, Huguette. Dans un premier temps, on pourrait même avoir l'impression qu'on ouvre Patronyme comme un livre sur votre père. Et d'ailleurs, on le referme en ayant l'impression que peut-être c'est un livre sur votre père, Vanessa Springora, et au milieu, il y a votre grand-père. Est-ce que vous diriez que c'est un peu le mouvement que prend ce livre-là ?
Oui, il y a un côté transformiste ou transgenre aussi, de la même manière que c'est un livre un peu hybride dans sa forme jusqu'au bout, avec des parties narratives, du travail sur l'archive, des souvenirs, un récit de voyage, etc. Il y a aussi cette double dimension qui est liée en fait au fait que ces deux figures paternelles masculines de ma vie sont indissociables, parce que je suis d'abord partie effectivement d'un mouvement en découvrant cet appartement dans lequel est mort mon père, de curiosité, d'avoir la possibilité tout d'un coup d'avoir accès à une intimité de mon père dont j'étais coupée, puisque je n'avais plus de lien avec lui déjà depuis plus d'une dizaine d'années. Et puis, j'avais dû le voir 4-5 fois, en tout et pour tout, dans les dernières décennies. Donc, je ne savais rien de lui, je ne savais rien d'autre que ce que, éventuellement, ma grand-mère, pour le coup avec qui j'avais toujours des liens, avait pu me raconter de sa vie. Je savais qu'il était comme ça, dans cet état d'échéance incroyable, vivant chez sa mère après avoir été expulsé de son appartement, après avoir été au chômage, après avoir été quitté par sa dernière femme, enfin, après avoir eu un infarctus. Tout un tas d'événements qu'il avait précipité dans cette situation où il était en train de végéter sur son canapé en fait pendant toutes les dernières années de sa vie, en ne faisant strictement rien d'autre que vivre une vie imaginaire et en s'inventant effectivement soit une ascendance très prestigieuse comme il avait toujours fait, soit des activités prestigieuses comme être espion ou responsable de la politique qui avait lieu à ce moment-là. Et puis, de fil en aiguille, découvrant des documents sur mon grand-père, là encore, il y a quelque chose qui a dévié. C'est-à-dire que je me suis rendu compte que ce que je découvrais de mon grand-père, en fait, éclairait le destin si opaque de mon père.
Est-ce que vous pouvez préciser ? Qu'est-ce que vous découvriez sur votre grand-père qui éclairait chez votre père ?
Ce sont deux photographies de mon grand-père qui le représentent en tenue de sport, dans les deux cas d'ailleurs. L'une en tenue d'épéiste ou d'escrimeur, et l'autre en tenue de sport, comme s'il était, il appartenait à peut-être une équipe de football, quelque chose comme ça. Une photo de groupe, donc. Et dans les deux cas, il porte la croix gammée et l'aigle impérial nazi, soit sur son brassard, soit sur son plastron. Donc c'est effectivement extrêmement choquant, bouleversant, d'autant plus que bon, c'était un homme pour qui j'avais énormément d'affection, de tendresse, et d'autant plus que ça correspondait absolument pas au récit qu'on m'avait fait de son passé, puisque je pensais qu'il était un simple citoyen tchécoslovaque qui avait été contraint d'intégrer l'armée allemande, la Wehrmacht, à la fin de la guerre, comme beaucoup de Tchécoslovaques après l'invasion de leur pays, et qui avait déserté parce qu'il aurait soi-disant sauvé de la mort certaine un wagon entier ou un train entier selon les versions de Tziganes. On m'avait présenté aussi, d'abord son opposition au nazisme et son opposition au stalinisme, qu'il n'avait pas voulu retourner après le coup de Prague, en 48, en Tchécoslovaquie, pour échapper au stalinisme, et donc il aurait il serait resté donc en France pour fonder cette famille avec ma grand-mère, qui était une jeune Normande de 19 ans, pour échapper à tout ça. Or, bon, là, ce que je découvre, c'est une histoire complètement différente, c'est qu'il s'est volontairement enrôlé dans des milices fascistes très jeunes, et qu'il a adhéré de son plein gré au nazisme. Et c'est évidemment quelque chose qui ne peut que me perturber, surtout venant de découvrir à quel point mon propre père était malade, avait sombré dans la folie toutes ces dernières années, sans avoir probablement lui-même pu avoir cette conversation avec son père et découvrir qui il était réellement, et donc sa véritable identité, son véritable nom, Springer, et le fait qu'il n'était en réalité pas tout à fait tchécoslovaque, mais surtout allemand et issu d'une communauté germanophone qui est celle des Sudètes, qui avait sans doute d'ailleurs déterminé ses choix politiques très jeunes.
Parce que ce que vous faites, Vanessa Springora, c'est pas seulement enquêter sur la fameuse figure de ce Joseph dont vous découvrez que l'histoire n'est pas du tout celle qu'on vous a transmise, mais petit à petit, vous mettez en parallèle à la fois ce que vous découvrez de la figure de ce grand-père et ce que vous n'avez pas compris, entendu, regardé, aperçu, supposé, deviné de votre propre père. Petit à petit, c'est comme si, je sais pas, l'histoire de votre grand-père était une lampe torche et puis votre père était un espèce d'objet avec plein de facettes. Ça vous permettait de le regarder autrement, tout ça à partir d'un nom. Et c'est vraiment l'effet miroir qu'a ressenti Marion, l'auditrice du Book Club, à la lecture du patronyme. C'est un livre qui l'a beaucoup hanté.
Bonjour le Book Club, bonjour Vanessa Springora. Bon, je suis ravie de revenir dire quelques mots dans cette émission que j'aime beaucoup, surtout pour votre roman, Vanessa. Ça a été une expérience super et surtout qui m'amène encore aujourd'hui à me poser des questions. Je repense encore souvent à patronyme. Du coup, je m'interroge sur mon nom, sur ce qu'il signifie, sur les personnes qui l'ont porté avant et peut-être sur ce qu'il a pu incarner dans les différentes périodes et notamment durant les périodes les plus sombres de l'histoire. Donc c'est une lecture qui m'a vraiment marquée. J'en profite du coup pour vous poser une question qui m'a pas mal traversée, c'est celle de l'équilibre de votre roman et notamment des limites que vous avez pu vous fixer, que ce soit des limites dans vos recherches, donc jusqu'où est-ce que vous vous êtes autorisé à aller et à chercher des réponses, et quelles limites aussi vous êtes-vous imposé sur ce qui était publiable ou pas, sur ce que vous vouliez partager au lecteur et sur ce qui était pour vous quelque chose qui relevait de l'intime et que vous vouliez garder dans votre histoire familiale. Je vous remercie beaucoup, à bientôt.
Merci à vous Marion pour ce témoignage de lecture et pour cette question que vous adressez à Vanessa Springora. À la fois l'idée que c'est un livre qui renvoie les lectrices et les lecteurs à elles et eux-mêmes et leur propre nom, Vanessa Springora, et sur la question des limites dans votre écriture.
C'est une excellente question parce que merci beaucoup Marion d'abord pour cette lecture et puis pour cette question aussi, parce que c'est important de le dire, d'autant plus que j'ai moi-même été confrontée au fait de devenir un personnage de livre. C'est l'expérience que je raconte dans Le Consentement aussi, qui était le redoublement aussi d'un trauma. Le fait non seulement d'avoir donc croisé malheureusement sur ma route un pédocriminel notoire qui était Gabriel Matzneff, mais qui était aussi écrivain et donc qui en plus redoublait finalement cette violence infligée par le fait de la raconter, de la livrer en pâture à des lecteurs dans ses livres, sans d'ailleurs que ça pose problème à personne.
Vous racontez d'ailleurs, dès le début du consentement, Vanessa Springora avoir pris conscience de la cage que pouvait être un livre et de décider d'en faire un usage. Vous, devenue autrice, femme, adulte, et dans l'après-coup, capable de faire usage de cette cage contre lui. Je ferme la parenthèse.
Alors, c'est la raison pour laquelle, effectivement, je me pose sans cesse cette question de la responsabilité qu'on a en tant que qu'auteur, autrice, et surtout quand on travaille à partir d'un matériau autobiographique. D'ailleurs, ça m'amuse beaucoup d'entendre Marion utiliser le mot roman, et ça me plaît, mais ça me plaît parce que c'est évidemment ce que je souhaite, qu'on puisse lire ce texte comme un roman, mais en réalité, il s'agit davantage d'un récit autobiographique, et c'est vrai que il y a des choses qui sont romancées, enfin, qui sont romancées à partir d'éléments factuels que j'ai pu retrouver, mais qui sont des petites embardées vers la fiction, mais globalement, c'est une histoire vraie et une histoire réelle que j'ai essayé de reconstituer, et j'ai fait très attention en fait à ne pas porter de jugement sur aucun de ces deux personnages que sont donc mon père et mon grand-père, de pas versé dans le moindre manichéisme à leur égard. Au contraire, cette enquête que je mène en prenant le lecteur et la lectrice par la main pour les associer en fait à cette exploration, c'est aussi une façon effectivement de changer mon regard sur l'un comme sur l'autre, c'est-à-dire d'introduire un peu plus de compréhension de leur trajectoire. D'une part, pour mon père, pour essayer de comprendre ce qui a fait de lui cet homme empêché, qui n'a jamais rien réussi dans sa vie, et qui a été absolument malheureux en tout, et dont la vie a été un échec complet d'un point de vue affectif, professionnel, sentimental, familial, enfin tout a été extrêmement finalement douloureux pour lui. Et quand pendant des années j'ai juste pensé que c'était un salaud, un sale type, qui était incapable d'être père, effectivement les découvertes que j'ai faites m'ont permis de comprendre où ça pêchait chez lui, en fait, le paternel. Et pourquoi c'était si compliqué d'être un père, parce que son propre père était une figure, pour lui-même, déjà complètement énigmatique et hantée par effectivement, la période la plus sombre de l'histoire et la plus inquiétante. Et donc, voilà, il y a déjà eu, effectivement, cette possibilité pour moi de modifier mon regard sur lui et d'avoir un petit peu plus de clémence. Et puis quant à mon grand-père, de la même manière, je crois que c'était important pour moi d'éclairer son destin particulier à l'aune de textes comme celui de Christopher Browning sur les hommes ordinaires, qui montre que c'est finalement la norme, et c'est très compliqué, je veux dire, d'échapper à son déterminisme social, culturel, familial, et que les héros et les résistants sont plutôt à l'inverse des figures d'exception. Mais en tout cas, je crois que si par exemple j'ai livré des détails sur la sexualité de mon père, c'était pas par exhibitionnisme quand je parle de son homosexualité refoulée, c'était au contraire pour montrer à quel point le poids d'une figure paternelle comme son propre père, qui était un ancien nazi et pour qui l'homosexualité était la pire des choses, au contraire, à quel point ça avait pesé sur lui, sur mon père, et à quel point ça avait été la tragédie de toute une vie, puisqu'il a fini par faire son coming out quelques mois avant sa mort, en disant qu'il avait gâché sa vie à force de lutter contre lui-même. Donc c'est dans ce sens-là que j'ai pris en mon âme et conscience la responsabilité de livrer certains détails intimes de la vie de mon père, sachant aussi qu'il est mort et que de toute façon aujourd'hui ça ne peut plus lui nuire. Voilà.
Il y a quelque chose aussi que j'entends dans la question et le témoignage de lecture de Marion, qui dit que ça l'a interrogée elle-même sur son propre nom de famille, sur l'origine de son nom de famille, sur la manière dont elle vit avec un nom de famille, qui fait écho à la manière dont votre livre Le Consentement a interrogé beaucoup de femmes, mais beaucoup d'hommes, sur leur propre adolescence, sur des rencontres plus ou moins heureuses ou très malheureuses, comme s'il y avait quelque chose dans ces deux livres-là qui proposait un miroir très puissant à celles et ceux qui le lisent. Est-ce que ça fait partie de votre désir? En avez-vous conscience, Vanessa Springora? Beaucoup de gens ont témoigné, après la lecture du consentement, avoir été extrêmement bousculés par cette lecture, en tant que ce que vous racontiez de votre rencontre avec Gabriel Matzneff et la pédocriminalité dont il a été l'auteur, mais aussi comment il et elle revisitaient certaines fois leur histoire.
Oui, bien sûr. Et d'ailleurs, j'ai reçu énormément de courriers de lecteurs et de lectrices qui n'avaient pas vécu exactement les mêmes non. les mêmes situations.
Pas besoin,
voilà,
d'ailleurs.
Qui n'avaient pas forcément été abusés dans l'enfance, adolescence, mais qui simplement, sur des questions qui étaient liées au consentement, à un épisode, à un moment de leur vie où ils n'étaient pas tout à fait sûrs, en fait, d'avoir très clairement été consentants à certains actes. Et...
Mais c'est aussi la puissance de ce mot. C'est-à-dire que le fait d'utiliser ce mot-là, de le choisir en titre, le consentement, c'est ce que je disais tout à l'heure, pour patronyme, ce sont des mots qui sont puissants, qui sont forts, quoi, qui portent beaucoup de choses.
Je l'espère, merci. En tout cas, je crois que c'est parce que j'essaye de, en partant d'un parcours qui est effectivement individuel et personnel, d'aller vers des questionnements qui sont, je crois, collectifs et universels. Dans Patronyme, ça me paraît évident qu'aujourd'hui, ayant fait moi-même ces découvertes, on doit être assez nombreux, en fait, à s'interroger sur le poids qu'ont constitué un certain nombre d'événements historiques. Là, je parle de deux générations au-dessus de moi, c'est-à-dire c'est mes grands-parents, c'est tout proche quand je dis que effectivement tout d'un coup je prends conscience que la Shoah a été exercée par la génération de mon grand-père sur le territoire dans lequel je vis et que cet homme était celui qui me portait
les mains qui vous portaient vers
voilà,
le sommeil
tendrement dans un lit pour que je continue à dormir d'un sommeil paisible et que c'est peut-être ces mêmes mains qui ont effectué les crimes les plus atroces. Évidemment, ça pose question et je me dis que je suis forcément l'héritière de cette histoire, mais comme nous le sommes tous et que on voit bien par ailleurs que tous les conflits auxquels nous sommes confrontés aujourd'hui, les conflits politiques, sont aussi hérités du XXe siècle et de cette période-là en particulier, de la Seconde Guerre mondiale. Donc, je crois que ça reste non seulement très important de continuer à transmettre cette histoire d'une manière ou d'une autre. Partir de soi est une façon de le faire. Je suis pas historienne, j'aurais pu aussi écrire un essai, mais c'est pas, j'en ai pas les moyens, les capacités. Mais je crois que de partir de l'intime, c'est aussi très efficace parce que on s'aperçoit que, évidemment, la micro-histoire, très vite, nous fait basculer dans l'histoire collective. Et en même temps, elle raconte des choses très intéressantes, autres, qui sont justement les stigmates de ces événements, cette tragédie du XXe siècle, la façon dont ils ont influencé notre histoire, la façon dont ils pèsent sur la culpabilité, évidemment, d'un point de vue collectif, la transmission ou non de cette histoire dans les familles. J'ai rencontré, il y a assez peu de temps, une jeune femme allemande qui, elle me disait qu'elle avait découvert seulement il y a 5 ans que son grand-père était un haut dignitaire nazi, alors que l'Allemagne a fait un travail de mémoire extraordinaire au niveau collectif. Elle me disait que dans les familles, c'était toujours pas le cas. Et je crois que c'est extrêmement important à un moment donné de savoir d'où on vient et ça permet effectivement non seulement de se comprendre soi-même, de comprendre d'abord à quel choix terrible d'une gravité extrême en fait les gens ont été confrontés dans ces périodes-là, justement sans porter de jugement, mais pour essayer que ça ne se reproduise pas. Si on parle d'une génération aussi qui ne parlait pas, hein, aussi en général, qui n'avait pas la culture en fait du dialogue, de la parole et de la transmission, au contraire on avait tendance à mettre tout sous le tapis, et y compris des choses intimes qui n'étaient pas forcément du même ordre, pas forcément politique, mais encore que l'intime est toujours finalement politique, mais donc moi je crois qu'aujourd'hui parler, raconter, transmettre ces histoires-là, ces histoires de famille, et montrer à quel point les non-dits sont dévastateurs, ça permet d'éclairer beaucoup de choses, d'abord au niveau individuel, effectivement, de susciter peut-être le désir pour d'autres de s'emparer aussi de cette question de la recherche généalogique ou de l'enquête familiale, tout simplement, pour essayer de faire circuler un petit peu plus la vérité et déconstruire éventuellement des récits un peu falsifiés, comme ça a été le cas de celui qu'on m'avait transmis à moi. Oui.
Vous dites à plusieurs reprises dans ce livre que vous êtes celle qui cherche, celle qui prend la parole, celle qui raconte, Vanessa Springora. Vous allez même jusqu'à cette proposition étymologique de Springer qui pourrait être, en effet, celle qui répand la parole. Il se trouve que dans les objets que vous trouvez dans l'appartement de votre père, outre ces photographies qui montrent votre grand-père avec des effigies nazies, il y a un manuscrit.
Dans une caisse, au fond du box, je tombe sur un manuscrit qu'il avait écrit et envoyé aux éditions Gallimard à la fin des années 60. Le roman s'intitule « Le briquet » et l'éditeur ne l'a pas retenu. Une lettre de refus accompagne le texte. Malheureusement, ce manuscrit s'est volatilisé. Je l'avais pourtant mis de côté avec les affaires que je voulais conserver, mais de retour chez moi, impossible de mettre la main dessus. Il a dû partir à la benne. J'aurais tellement aimé comprendre ce que le jeune homme de 20 ans qu'était mon père avait dans la tête, quel était son imaginaire à cette époque, s'il écrivait bien, si son histoire tenait la route, quelle lecture l'avait influencé. Ce manuscrit avait tant d'enseignements à me délivrer. Je ne me suis pas remise de sa disparition. J'ai cru comprendre, en le parcourant rapidement, qu'il s'agissait d'un roman policier. Son héros était-il un détective privé, ou comme moi en ce moment même, une orpheline recueillant les indices laissés par son père pour percer son mystère ? Si mon père a été si fier que j'ai publié un livre, au point de m'écrire pour m'en féliciter, c'est que j'avais sans doute accompli son rêve. J'avoue que l'écriture, ce point commun inattendu entre lui et moi, commence à fissurer ma carapace de colère et de dégoût. Comme le Monsieur Test de Paul Valéry, mon père est l'auteur de 1000 histoires qu'il n'a jamais écrites que dans sa tête. À son sujet, on peut parler d'un processus constant d'invention, de réécriture de sa vie. Il a sans cesse cherché à se réfugier dans une reconstruction acceptable, vivable du monde extérieur, et c'est en soi une activité de romancier. On se fabrique les refuges que l'on peut. Et puisqu'écrire, c'est habiter le monde d'une façon différente, c'est vivre à l'intérieur des histoires qu'on se raconte, je me demande ce qui distingue fondamentalement les écrivains des mythomanes.
Découvrez au fond, quand vous découvrez ce manuscrit, Vanessa Springora, qui me semble être presque une des clés encore plus secrètes que la terrible photographie de votre grand-père qui le révèle engagé dans les crimes nazis.
Ça me touche énormément que vous ayez souhaité mettre l'accent sur ce passage, parce qu'il y a beaucoup de deuil dans ce livre. Et je pense qu'il y a évidemment le deuil de mon père, le deuil aussi d'une histoire familiale qui n'était pas la véritable histoire. Et puis, il y a le deuil de tout ce que je n'ai jamais pu appréhender et connaître de qui était mon père. Et effectivement, découvrir qu'il avait en fait cette vocation d'écrivain très jeune, qu'il avait écrit un texte, parce que c'est pas rien d'écrire un roman en entier, c'était un vrai manuscrit qui devait faire au moins 250 pages, qu'il avait dû donc écrire, composer, peut-être pendant plusieurs mois de sa jeunesse, quoi. Ça m'a vraiment bouleversée, parce qu'effectivement c'est un point commun entre nous, mais dont il ne m'avait jamais parlé. Voir que effectivement il s'agissait aussi d'une forme d'enquête, sachant qu'à un moment donné de sa vie il a essayé d'être détective privé, il a eu ce souhait et puis je crois qu'il l'a jamais mis en œuvre.
Et puis il a beaucoup imaginé en espion, il vous a beaucoup raconté voilà. Qu'il était espion.
Ça me renvoie toujours, et ce que je trouve poignant justement, à son désir de faire de débusquer la vérité, c'est cette chose qu'il n'a jamais réussi à faire, et ça me renvoie au fait que c'est moi qui ai repris le flambeau, finalement, inconsciemment. Et donc, il y a beaucoup de choses qui passent d'inconscient à inconscient. Le fait que je me sois mise à écrire à mon tour, et aujourd'hui d'avoir écrit Patronyme, qui est peut-être l'enquête qu'il ne pouvait pas écrire, lui, que j'ai écrit à sa place. En tout cas, pour lui aussi, ça me touche énormément. Et effectivement, quand je dis que je ne me suis pas remise de sa disparition, je me rendais pas compte
en écoutant du manuscrit.
Ben, je me rends compte qu'effectivement, je ne sais pas ce qui est le pire, c'est d'avoir perdu ce manuscrit qui était vraiment une trace de lui, un accès en fait direct à à son identité.
J'arrive pas à savoir si je l'avais rêvé, cette idée, ou si c'est vrai, parce que le manuscrit s'appelle Le Briquet, et j'ai l'impression de vous voir, Vanessa Springora, dans ce livre-là, ou dans Le Consentement, garder un briquet en or de votre père.
Oui.
Donc oui, vous avez perdu c'est ce que le j'ai manuscrit, gardé, le briquet, sûr. Mais vous avez gardé l'objet.
Bien sûr, et c'est un clin d'œil, évidemment, à ce manuscrit. J'ai gardé il avait un briquet Dupont en or, enfin en or non, doré, ben, voilà, mais que j'ai gardé et que je voilà, qui est le seul souvenir, vraiment l'objet que j'ai de lui qui me reste.
Je disais en introduction que vous racontez deux parcours d'hommes qui, pour des raisons différentes, ont essayé d'effacer une partie d'eux, la moitié d'eux, la totalité d'eux, une part d'homosexualité, une partie de l'histoire, des crimes nazis, mais... En fait, ils ont essayé d'effacer quelque chose d'eux-mêmes, ces hommes sur lesquels vous enquêtez, Vanessa Springora, et vous racontez en narratrice qui essaye au contraire composer des choses, faire tenir ensemble les éclats d'une identité. Est-ce que patronyme, c'est aussi, sans changer de nom, simplement décider de l'habiter, décider de l'être, ce Vanessa Springora, peut-être de l'écrire, ce patronyme, peut-être, et ce qui est beaucoup refusé, ce qui a été beaucoup refusé aux femmes, finalement, d'en être l'autrice.
Je crois que c'est exactement ça. C'est d'ailleurs bon, la raison pour laquelle j'ai un peu structuré donc, le livre autour de la question du nom de famille, du nom du père, du nom d'emprunt et du nom à soi, enfin du nom propre, donc, qui pour moi en fait prend son sens quand on l'entend pas dans le sens de nom effectivement immaculé, sans tache, irréprochable, mais plutôt dans le nom qu'on se fabrique. Je me suis aperçue au moment où j'ai publié mon premier livre, qu'effectivement la question d'écrire sous pseudonyme ne se posait pas pour moi à plusieurs titres. D'abord parce que j'étais dans une démarche de vérité, donc j'allais pas me maquiller, dissimuler derrière un faux nom. Et d'autant plus que se construire un nom, c'est de toute façon... pour les femmes, ça reste effectivement impossible, à moins de se l'inventer, comme je le dis d'ailleurs, y a certaines coutumes dans lesquelles c'est possible. Et moi, je militerais plutôt pour ça, plutôt que la transmission toujours patriarcale d'un nom de génération à l'autre, qui serait qu'en fait un nom d'emprunt toujours pour les femmes, puisqu'elles empruntent celui de leur père pour ensuite prendre éventuellement celui de leur mari. La possibilité, effectivement, comme le font, j'ai vu par exemple, les Lakota se changent 4 fois de nom dans une même existence. Moi, ça, je trouve ça génial. Et j'aimerais qu'on invente des espèces de rituels où on pourrait, à différents âges de la vie, en fonction de ce qu'on a accompli ou de ce qu'on souhaite, s'inventer son propre nom.
Pour coïncider avec.
Mais mon nom étant déjà un pseudonyme, en fait, en réalité, ça me va très bien et j'ai décidé de l'assumer complètement. Et il m'a fallu le chemin de ce livre-là, patronyme, pour pouvoir me sentir en adéquation complètement avec lui.
Le Book Club continue.
France Culture, le Book Club. Marie Richeux.
Et il continue avec vous, Diaty Diallo. Bonjour Diaty.
Bonjour Marie.
Vous êtes en résidence dans le Book Club pendant ces semaines et vous avez pour tâche de lire des livres en fonction de l'actualité. Quel livre vous avez eu envie de relire cette semaine ?
Alors cette semaine, j'ai eu envie de relire Piste. C'est un texte de Penda Diouf qui est artiste et autrice de théâtre. C'est une histoire d'un courage intime, celui d'une femme qui décide d'aller là où on ne l'a jamais attendu du tout. Et de courage collectif aussi, celui de peuples en résistance pour la survie des leurs. Le livre raconte ainsi le premier génocide de l'histoire du XXe siècle, celui perpétué par l'Allemagne des peuples Herero et Nama en Namibie, ainsi que l'un des premiers camps de concentration qui s'appelle Shark Island. Tout ça permis par le découpage colonial de l'Afrique lors de la conférence de Berlin en 1884. Une histoire qui est absente des manuels scolaires, mais qui continue pourtant d'influer sur celles et ceux qui en héritent malgré elles et eux. Et dans son livre, Penda Diouf interroge beaucoup. Je la cite. Elle dit « Pourquoi personne n'en parle aujourd'hui ?» 75% de la population Herero et 50% de la population Nama sont tués, sciemment, méthodiquement pendant cette période. Qui parle d'eux ? Qui répare ? Qui raconte ?
En effet, l'histoire enseignée par les manuels scolaires n'est pas tout à fait celle que choisissent d'exposer les autrices et auteurs de littérature, Diaty Diallo.
Non, ça c'est sûr, et elles sont très certainement complémentaires ces histoires, mais dans tous les cas, il s'agit de choix narratifs à mon sens, de sortes de fiction. D'où la nécessité d'opérer des contre-récits. Dans Piste, Penda Diouf assemble avec la minutie d'une couturière les morceaux dispersés, les motifs négligés et pourtant répétés de l'histoire. son continuum de violence coloniale et génocidaire, pour former une toile qui, à la façon des premiers chefs-d'œuvre de l'histoire de l'art, raconte, éduque, éclaire. Piste apporte non pas de la logique, mais un sens de lecture qui semble, à ce qui semble, pardon, relever de l'absurde, à mon sens.
Alors, généralement, vous commencez par évoquer le fait d'actualité qui vous a interpellé pour poursuivre par le titre de livre. Ici, vous avez fait l'inverse. Quelle est l'actualité avec laquelle vous reliez tout cela ?
Je relis tout ça à ces termes, cessez le feu. Qu'on a, je pense, toutes et tous lu cette semaine. Ces mots qu'une partie de l'humanité attendait, ces mots immédiatement célébrés par certains médias qui n'avaient pourtant jamais eu la décence de consacrer leurs antennes à faire autre chose que de réduire des massacres à des débats de plateau. Cessez le feu. Des mots qui, voilà, après une année et demie, pardon, de mort et de peur de mourir à Gaza. Cessez le feu et les discussions obscures et douteuses qui ont permis d'y parvenir à ce cessez le feu. Au sujet du génocide des Herero et des Nama, Penda Diouf écrit « Personne ne s'est soucié à l'époque du sort des Herero et des Nama. Ce génocide s'est déroulé dans l'indifférence générale de la communauté internationale, malgré les appels à l'aide de feu Hendrik Witboy. Les Allemands ont les clés en main, les Anglais alertés ne veulent se prononcer sur le conflit. C'est le principe de non-intervention du gouvernement britannique dans les affaires allemandes. »
Alors c'est une époque bien différente que nous traversons, la circulation des informations est rapide sur les réseaux sociaux notamment, et pourtant ces phrases peuvent encore résonner selon vous.
Tout à fait, et je pense qu'il faut continuer de les faire résonner, c'est important, de réunir les réalités que ces infos recouvrent pour faire apparaître les trames de l'histoire et espérer pouvoir la composer un jour différemment. L'image de l'aiguille et du fil qui relie, qui attache, parcourt le texte de Piste de bout en bout, et je le cite encore, assemblés de morceaux de tissu, dessinés patiemment la couture qui les relie, chirurgie, pont, rassembler les tissus d'histoire épars, patchwork cousu d'intime, et s'en faire un drapeau, une cape ensanglantée pour affronter le monde. Et moi, ce passage m'a vraiment fait penser aux quilts. Les quilts, c'est des couvertures faites de superpositions de motifs qu'on retrouve beaucoup aux États-Unis notamment, dont la tradition a été transportée depuis l'Ouest africain par des personnes déportées et esclavisées à l'époque de la traite négrière atlantique. Et outre leur fonction thermique, ces couvertures permettaient de partager des symboles et des secrets, d'en faire perdurer l'alphabet. Et moi, j'aime bien me dire que ce qui permet de s'envelopper, de se couvrir, permet aussi de témoigner. J'aime aussi me dire qu'il suffirait alors de découdre les motifs, les repositionner différemment, ou en ajouter d'autres, pourquoi pas, pour changer le sens de l'histoire qu'ils racontent. C'est peut-être ça d'abord qu'il faut faire, défaire et refaire, défaire et refaire. Mais en attendant, derrière les petites formules poétiques que j'emploie depuis tout à l'heure, la réalité est crue et les questions sont innombrables. Quel rapport à l'espace ? Quel rapport au sol miné ? Quel rapport au ciel meurtrier pour les survivants, survivantes de la guerre ? Quel avenir pour Gaza ? Qui encore va se permettre de parler, de décider à la place du peuple ? Et puis il va falloir expliquer aux enfants, à celles et ceux qui se souviendront de leurs yeux, à celles et ceux qui grandiront dans une angoisse instinctive et diffuse, léguée par les mères qui les ont portées dans le ventre, sous les bombes. Car comme les grains de sable du désert Namib décrits dans les prologues et épilogues de Piste, ceux des plages de Gaza se souviendront aussi. Et je cite Penda Diouf une dernière fois. Ce sont les pleurs sans larmes des grains de sable, témoins des morts millénaires, de l'oubli des autres continents. N'oublie pas ce cri muet de l'abandon, de la tristesse et de l'oubli. Ce chant du siècle dernier qui résonne encore aujourd'hui.
Merci beaucoup, Diati Diallo. Le titre du livre que vous avez relu de Penda Diouf aujourd'hui, c'était
Piste.
Elle sera notre invitée, Penda Diouf, pour un portrait consacré à tout son art de dramaturgie. Le book club se termine toujours par une recherche, Vanessa Springora, celle de la musique dans les livres. Il se trouve que vous citez une chanson, on l'a entendu, une parole d'une chanson de Compromat pour le dernier chapitre. Et ce sont les paroles d'une chanson aussi qui ouvre votre premier chapitre, celle d'une chanson de Philippe Catherine, Les Objets.
Tous ces objets qu'on a connus, à qui vont-ils appartenir? Que vont-ils devenir? Ça, je n'en sais rien. Oui, l'harmonica, je vais jouer l'harmonica, mais ces outils pour quel jardin? Je n'en sais rien. Qui lira ces bouquins d'histoire? Qui sourira dans son miroir et ses habits, je n'en parle pas. Qui portera ce blouson-là? Ce que je veux pas, c'est croiser quelqu'un qui l'a sur le dos. Je tuerai ce salaud ou j'en sais rien. Les objets.
Merci beaucoup Vanessa Springora d'avoir été avec nous dans le Book Club pour évoquer votre livre Patronyme, paru aux éditions Grasset. Au son, c'était Anthony Thomasson aujourd'hui, à la réalisation Vivien Demeyer. Un grand merci à toute l'équipe du Book Club.